Shavua Tov, on m'a demandé de parler de le titre « L'effervescence politique est-elle interprétable comme annonce de la délivrance ?» Non, c'est une question qui dépasse le simple. Comment un simple peut répondre à cette question ? Interpréter des effervescences politiques, comprendre derrière les événements politiques quelle est l'intention de celui qui est au ciel, être un chacham harouet, un olad, tout ce qui est politique, qui est le chacham qui peut prévoir le futur, qui peut interpréter. Un simple ne peut pas interpréter. Un avis, un Baal Keruach HaKodesh, un avis, bien sûr, il sait, un homme qui a de Ruach HaKodesh, ça pourrait servir. Est-ce que chaque homme qui a de Ruach HaKodesh peut interpréter des effervescences politiques? On connaît très bien l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a vécu après la destruction, pendant la destruction, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, est venu un monsieur qui s'appelait Bar Kokhba, et il y avait une grande effervescence politique, et militaire. Il a mobilisé une armée, il a fait la guerre contre les Romains, et il a eu succès après succès. Et Rabbi Akiva, il pensait qu'il est le Mashiach. Or, c'était une fausse interprétation. Alors si Rabbi Akiva, qui a Baal Ruach HaKodesh comme Rabbi Akiva, c'est pas un avis, il n'a jamais dit qu'Hachem lui a dit. Lui, d'après ses connaissances, il a osé d'interpréter, mais c'était pas ça. C'est pas ça. L'Okarabi Akiva, il n'avait pas raison. Il y avait d'autres choses. Alors, si Rabbi Akiva ne sait pas, ou si Rabbi Akiva peut se tromper, alors qui peut être l'homme qui va dire, moi je sais interpréter. Alors peut-être c'est différent. Peut-être ça c'était tout de suite après le Khorban. Maintenant nous sommes 2000 années plus tard. Peut-être maintenant c'est plus facile. Peut-être. Peut-être oui. Peut-être non. Vous avez bien compris que je ne suis pas venu pour répondre à la question. En principe, je peux partir à la maison. Mais quand vous êtes resté scotché sur votre chaise, ça veut dire que vous voulez quand même entendre encore un peu son. Sans attendre que je donnerai une réponse, un peu entendre. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il est marqué dans le Chumash? Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Tanakh au sujet des annonces de la délivrance? Est-ce qu'il y a des signes, des choses qui prévoient, qu'on pourrait interpréter? Oui, Chachamim nous donne, la Gemara nous donne, les Tanakh, les prophètes, Moshe Rabbeinu parle dans la Torah. Évidemment, il n'est pas marqué ni de nom, de personne, ou de la date. Ça n'est pas marqué. Mais certaines, disons conditions, certains signes qui annoncent que bientôt il va venir, ça existe. Qui annonce d'une façon sûre ou d'une façon probable ou éventuelle, bon, ça c'est une grande question. Mais quelles sont les choses qui, évidemment, ils font partie des signes, des annonces qu'on n'est pas loin de Mashiach? Quelles sont les choses qui sont évidentes? Une chose évidente est marquée dans le Chumash, marquée dans tous les prophètes, dans tous les Gemarot, c'est Kibbutz Galiot. Kibbutz Galiot, Yemin Edachacha, Bikti Hashemayi, Misham Yikabetz Hashem Elokecha, Misham Yikachecha, Ve'aviach, Al Haaretz. Le juif, les juifs qui sont éparpillés dans le monde entier, loin, ils vont venir et s'installer en Eretz Israël. Ça, c'est marqué dans le Chumash. Tous les juifs le savaient toujours. Que Kibbutz Galiot, avec la venue de Mashiach, sont liés. Ça, c'est sûr. Ainsi, si les Juifs ils vont s'installer en Eretz Israël, il faut qu'en Eretz Israël, ils se préparent de recevoir les Juifs. Se préparent comment? De donner les conditions de vie, étant donné que pendant que les Juifs ils étaient en exil, la Torah désigne les conditions de la terre. Elle sera chamem, elle sera vide, elle sera abandonnée. Marqué dans le Chumash, marqué dans les prophètes, marqué dans la Gemara. Donc si la terre voudrait recevoir Eretz Israël, si HaKadosh Baruch Hu voudrait que la terre recevoir le peuple juif, il faut que la terre se prépare en donnant des fruits. Donc la Gemara cite le pasuk de Yechezkel, Anfechem le Eitzim, le bois, les arbres, ils vont porter les fruits. Eretz Israël va fleurir au niveau de possibilité de nourrir un peuple. Quand on verra en Eretz Israël que ça commence à fleurir, Anfechem Tissou, à l'armée Israël, comme mon peuple juif commence à revenir et ça va fleurir. En lacha, siman galoui mise, il n'y a pas une annonce plus claire que ça, que c'est pas loin. Comme ça dit la Gemara Sanhedrin, avec Rashi, c'est des signes annonciateurs que ça se prépare. D'autres choses, ils sont marqués dans le Chumash, que les juifs, ils font teshuva. Que les Juifs ils vont se mettre dans le chemin de la Torah pour préparer à une société qui sera fidèle à la Torah, fidèle à titre privé et fidèle à titre de peuple, fidèle à titre d'État. Ça veut dire quoi? Que chaque individu il fait la Torah. Et qu'il y aura des juges, shoftim, le shotrim, ashiva shoftai irkeva rishona, vayotza irkeva techila. Il y aura des juges, il y aura des batidinim, il y aura une direction qui sera religieuse. Et qu'au même moment, la terre se construit. Eretz Israël, et spécialement Yerushalayim. Où venez Yerushalayim, on dit dans la Amida, Hashiva Shoftena Kavarishona, on parle de Kibbutz Galiot dans la Tfila, après Barech Aleinu, après qu'il y a quoi manger. Comment marche la Tfila? Vous avez un sidour? La Gemara nous dit que le noussach de la tfila, les brachot une après l'autre, Ils sont construits sur des psukim du Tanakh qui suivent une logique d'ordre, ordre ou désordre. En tout cas, les choses sont liées une avec l'autre pour l'aboutissement que Mashiach il vient. Barech aleinu, il y aura quoi à manger. Teka b'shofar v'sanes l'kabetz galiotenu y'akibutz galiot. Mekabetz nidche amo Yisrael. Ashivo shoftenu, il y aura des bate dinim. V'lamashirim al tihitikva, et les traîtres. Et ceux qui essayent de perturber le peuple juif avec des idées anti-religieuses, eux, leur bouche va être scotchée. À la tzaddikim, à la chassidim, quel mot va donner récompense. Yerushalayim sera construit. Le trône de David va être préparé. Alors, ce sont des signes qui ne trompent pas. Maintenant, la question qui se pose, le titre « L'effervescence politique ». Est-elle interprétable qu'on annonce de la délivrance? Mais de quelle effervescence politique? La politique est écrite dans le Sidour. La politique qu'on vient de lire. Le jour que nous allons voir les événements politiques tels comme ils sont décrits, alors, évidemment, c'est ça. Si tout il se passera comme c'est marqué dans le Sidour, eh bien, ça sera merveilleux. Évidemment, n'importe quel orateur, il peut s'arrêter ici. Eh bien, c'est clair. Mais la question, bien sûr, que vous demandez, c'est les événements que nous voyons avec nos yeux. Les événements qui se déroulent devant nos yeux. Est-ce que ces événements peuvent être interprétés ou ils doivent interpréter comme annonce de la délivrance? Voilà la question. Je suppose que c'est ça le sens de la question. Parce que si vous allez me demander ce que peut-être il va se passer dans je ne sais pas combien d'années, et vous allez voir l'accomplissement de chaque mot qui est marqué dans le Sidour, alors vous n'avez plus besoin de moi, vous avez déjà le Sidour. Qu'est-ce que nous voyons avec nos yeux? On voit à première vue des choses contradictoires. Certains signes, kibbutz galiot, que le peuple juif revient en Eretz Israël au XXe siècle, XXIe siècle maintenant. Est-ce qu'il y a une inégale dans l'histoire juive depuis la destruction, depuis que Titus il a détruit le deuxième Beth Amikdash? Ils ont pris les Juifs, ils ont fait éparpiller une grande partie, probablement la majorité. Et après, dans les deux, trois, quatre siècles après le Korban, ils ont chassé encore plus et plus. La population est partie en Babylonie. Et de temps en temps, il y a un Juif qui est revenu en Eretz Israël. Des petites communautés. Après des longues années, à l'époque des Rishonim, au 12e, 13e, des gens, des Juifs qui sont partis au 14e, 15e, un petit peu. Après Atzfat, Tveria, 16e, 17e. Mais ce qui s'est passé depuis la fin du 19e siècle, et pendant le 20e siècle, la deuxième moitié du 20e siècle, et jusqu'à aujourd'hui, qu'aujourd'hui, Blainara a plus que 7 millions de Juifs en Eretz Israël. Évidemment, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Il n'y avait jamais eu un tel kibbutz galiot. Ça n'a jamais existé. Ezra Sofer, quand ils sont venus pour construire le deuxième Beth Amikdash, après le Khorban du premier, ils sont montés. La Aliyah était 42 000 juifs. 42 000 juifs, ils sont venus. Ça, c'était la... Avec ça, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, ils ont commencé le deuxième État juif en Eretz Israël. Ça, c'était un espèce de kibbutz galiot pour eux. un début. Après, bien sûr, sont venues plus des personnes, il y avait une bracha, sont devenus des millions des juifs en Eretz Israël. Mais bon, ça a commencé avec 42 000 et ça a été 42 000 vis-à-vis de ce qui est aujourd'hui. Si on regarde Kibbutz Galuyot, eh bien, on a un signe très fort. Signe très fort. Si on regarde si la terre, elle se prépare pour recevoir les Juifs, les fruits qui poussent en Eretz Israël, les légumes qui poussent, le blé, mais blé à Enara, il y a un shefa extraordinaire. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai rien compris. En France, il y a tellement beaucoup de pluie. Je ne sais pas comment en Eretz Israël, comment à Auchan et comment à Carrefour, il peut vendre des produits d'Eretz Israël. Il n'y a aucun pays, il n'y a qu'à la France, peut-être l'Espagne, mais à part ça, il y a Eretz Israël. Dans aucun pays, ils amènent tellement beaucoup de fruits. Produits en Israël, made en Israël, j'ai rien compris. Mais ce n'est pas qu'en France, et en Suisse aussi, d'autres pays en Europe aussi. J'ai rien compris. Quand, oui, la terre, elle était très petite. Pourquoi c'est pas marqué made en Turquie? Il y a un peu des dates, un peu des dates Algérie, d'Eglesnour, il y a un peu des dates d'Algérie. Des fois, il y en a des raisins secs de Grèce, mais n'a rien à voir avec les produits d'Eretz. Ils ont bien mangé, ils peuvent exporter, puis les plantes. Ou ils achètent moins cher en Chine et ils vont, je ne sais pas comment ils vont. Et pas seulement la nourriture. Pour que la terre revienne, c'est marqué construire, au Béné Yerushalayim, la construction de la terre. On y va, tout le monde y va. Aux vacances, au moins, les routes, ils sont là, et les maisons, et ça pousse partout. Ça pousse partout. Là, il y a une construction d'Eretz Israël. Et pour qu'une société puisse exister, il faut aussi une protection. Il faut une protection tant que Mashiach ne s'est pas instauré son gouvernement. On est toujours sujet à la jalousie, à essayer de nous prendre ce que nous avons, l'argent ou la terre ou les maisons et tout. Il faut être protégé. Et ça fait partie de ce qui est marqué dans les prophètes, qu'Hachem y va protéger le peuple juif. Qu'est-ce qu'il s'agit vis-à-vis d'une protection? C'est le mala de ce qu'on pourrait s'imaginer. Le mala de ce qu'on peut s'imaginer. Le pelle que c'est quelques juifs, ils ont réussi à faire ce qu'aucun pays du monde a réussi à faire. Que des centaines de millions de gens, plusieurs centaines de millions de gens, ils n'arrivent pas, ils veulent, ils n'arrivent pas à enlever ces quelques choses qui sont là-bas. Pelle pile blot. C'est pas normal. Même sans armes, simplement, ils auraient marché, ils auraient pu alpiter, va nous écraser. Et ils veulent le faire, et jour et nuit, et le monde entier, ils se cassent la tête, comment faire chasser ces quelques juifs en Eretz Israël. Et ils se cassent les dents, ils se cassent les mains, ils se cassent les bras, ils se cassent le truc, et ça ne marche pas. Ça, bien sûr, ça fait partie des... Vaïta Yerushalayim le Eretz ma le Even Maamasa, il dit le prophète. Yerushalayim sera Even Maamasa. C'est Even Maamasa, ça veut dire quoi? Quand il y a une grosse pierre et on veut le déplacer, et la pierre pèse des tonnes. La pierre pèse des tonnes. Alors, on se met ensemble, des centaines de personnes. Hop! Il faut lever la pierre pour le déplacer. Mais la pierre, il est plus lourd que les centaines de personnes. Ou ils s'y prennent mal et lui lâche quand lui truc et ça tombe sur les mains, ça écrase les mains de ceux qui veulent soulever. Il dit le prophète, Yerushalayim sera even ma'amasa. Asher kol, je me rappelle pas les mots, que chaque main qui essaie de lever, la pierre va lui écraser la main. Il dit le Navi, les peuples vont mettre autour d'Yerushalayim. Chaque qui va essayer la pierre, c'est les Juifs. Ils vont essayer de lever les Juifs pour le mettre dehors, et ça leur écrase dans les mains. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Pas du tout normal. Et qui aurait cru ça des Juifs, et encore des Juifs, sans aucune expérience militaire depuis 2000 ans, les Juifs n'avaient pas d'expérience militaire. Ni expérience militaire, ni armes, ni connaissances. Les Umot HaOlam, ils ont depuis des siècles, ils savaient comment faire une armée, comment mobiliser une armée, et des armes et des préparatifs depuis toujours. Et les Juifs, ils n'avaient rien. Ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des chaussures avec une canne pour partir. Quand la situation devenait dangereuse, on a pris la canne et on est parti dans un autre pays. Voilà, ça c'était Vayivrach Yaakov. Ça qu'on a fait. Physiquement, militairement, psychologiquement, les Juifs, ils n'avaient pas dans la tête de résister. Tu veux me tuer, je te tue. On a d'ailleurs, cette semaine, on commence quel paracha on commence? Vayetse. Il y a un pel dans le paracha de Vayetse. On va le lire Shabbat prochain. Yaakov Avinu est arrivé devant Haran. Il a vu beaucoup de bergers. Il demande aux bergers, vous faites quoi ici? Vous faites la sieste? La journée est encore longue. Bougez-vous un peu. Vous avez tous des moutons. Prenez-les, donnez à boire. On ne peut pas, monsieur. Il y a une grosse pierre sur le puits. Et on ne peut pas enlever cette pierre. Il faut attendre que tous les bergers viennent. Hein, et ensemble, on va enlever la pierre. Alors, qu'est-ce que Yaakov, il voit Rachel venir avec ses moutons. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Voyez, elle est à Ève, hein? Il a enlevé les pierres, Rachidi, comme un truc comme ça, comme on enlève une bouteille de Coca-Cola. Et il a donné à boire aux moutons de Rachel. Mais pourquoi il a fait ça, Yaakov? Dites-moi pourquoi. Parce qu'il voulait que les moutons de Lavan, de Rachel, ont quoi boire. Et hier, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont bu quoi, hier, avant-hier? Eh bien, Rachel, elle a attendu, avec tout, que tous les bergers se sont réunis. Et les bergers, ils ont pris la pierre, ils ont déplacé. Eh bien, comme ça, c'était hier, et avant-hier, et avant-hier, ce sera aujourd'hui aussi comme ça. Bonjour, mademoiselle Rachel, bonjour. Eh bien, on va attendre que les bergers vont venir et vont déplacer. Yaakov dit, mais non, moi j'ai, oups, j'enlève tout ça. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pour que les moutons de Rachel boivent une heure plus tôt. Et s'ils vont boire une heure plus tard, c'est la fin du monde. Comme hier, comme avant-hier, qu'est-ce qu'il y a? Pshat Pashut, il est. Que Yaakov, il savait que Esav, il voudrait le tuer, il se sauver d'Esav. Évidemment, il se sauve, mais Esav, il va envoyer des mercenaires. Ou lui-même, il va venir, il va mobiliser une armée, comme il a mobilisé l'armée quand 22 années après, Yaakov, il est sorti de Chalavan. Il a aussi mobilisé une armée. Bien sûr, il va envoyer des gens. Il va rentrer ici à Haran, il va dire à Haran, vous voyez, il a le Jacob là, vous lui coupez la tête la nuit. Vous faites quelque chose pour le liquider, ce gars. Et Lavan lui-même aussi, c'est un dangereux. Lavan, Bikesh Lavan, l'accord est à col. Lavan aussi voulait tuer Yaakov. Et il faut se méfier de deux gangsters, Esav et Lavan. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit échantillon de ce qui est ici. Moi, je suis popé, moi. Vous avez besoin de 30 personnes pour se réunir. Moi, je fais dans une seconde, j'enlève ça. Oh, wow, c'est Ali Mohammed. C'est un Superman. C'est comment ils appellent ça dans les... Mais ce type-là, mais oulala, il est 100 fois plus fort que tout le monde. Oulala, attention. C'est ça qu'il y a que vous voulez. Vous commencez pas avec moi. Que personne il aura une idée de me toucher. Hein? Ce qui me touche, je le prends, je le jette 100 mètres. Il a fait, en bon français on appelle ça, il crânait. Il a fait montrer un peu sa force. Parce qu'Akadej Bokh lui a donné, Yaakov était super fort. Et quand Akadej Bokh lui donne la force à quelqu'un, c'est pour qu'il l'utilise, pour la bonne chose. Il était en danger de mort. Et il a fallu courir derrière. Laban, c'est un archi-gangster. Il faut que je tape. Vous, personne ne me touche ici, que vous le sachiez qui je suis. Je ne me laisserai pas faire, hein? Voilà. Tout le monde, il avait des recherches devant lui. Quand les Juifs, ils sont passés à côté de Moab, à Mon Moab, marqué dans Rashi, chez Moab, les Juifs, ils sont passés, ils ont montré les clés Zayan, mais les Benoît, ils ont tremblé. Simplement, montrez. Vous ne touchez pas. Hein? Si vous avez des idées tordues, le voulait Moab de vous nous chasser d'Eretz Israël, que ça ne vous monte pas à l'esprit. On est fort. Et les autres, ils se sont calmés. Cette idée n'existait pas depuis 2000 ans dans la tête des Juifs. L'exil nous a enlevé ce courage et cette idée. On était en exil. Ça fait partie de l'exil. Le retour en Eretz Israël, comme les prophètes racontent, il fait partie, il y a une partie qui s'appelle que les goyim ne peuvent plus nous toucher et qu'ils doivent nous respecter. David Melech, il s'est fait respecter avec son armée. Ça aussi, c'est pile et plat, c'est pas normal. C'est pas du tout normal ce qui se passe en Eretz. Une histoire s'est passée il y a quelques années, pas longtemps, aux États-Unis. Un juif, il l'a raconté. Il est dans le militaire américain. Il travaille dans le... Alors, il y a là-bas un formateur du militaire, un officier, je ne sais pas, un général, un historien, je ne sais pas. Il apprend aux soldats la stratégie des guerres de toutes les guerres qui étaient au XXe siècle. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale et toutes les guerres, il a analysé les causes, les problèmes, les événements et ceux qui ont gagné la guerre, pourquoi ils ont gagné la guerre. Il y avait beaucoup, beaucoup de guerres, pas seulement deux guerres mondiales. Le XXe siècle était très riche en guerres. Alors chaque guerre, il a expliqué. Eux, ils ont truc, et moi... Et comment c'est venu? Et donc, et la logique dit que lui gagne, et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Et chaque fois qu'on est arrivé à la guerre de 1948 en Eretz, ou en 56, ou en 76, 67, ou en 73, au Liban 82, toutes les guerres, il a évité. Il a sauté dessus, il n'existait pas. Bon, ce juif, il a écouté. Après plusieurs fois, il voit qu'il saute, il vient chez lui. Il dit, vos cours sont très intéressants, mais c'est vraiment génial. Mais je vois que vous évitez de parler des guerres entre les Arabes et les Juifs. Vous pouvez me dire pourquoi ça vous supportez pas pouvoir prononcer que les Juifs ont gagné la guerre, ça vous fait mal au ventre ou quoi? Ça vous êtes... Il dit non, pas du tout. Moi, je suis. Ça me dérangerait, ça m'est pas dérangé et tout. Alors, il dit pourquoi vous expliquez pas. Il dit je vais vous dire, monsieur. Moi, je suis stratège de guerre. Et je calcule les choses, et d'après le Derech HaTeva, d'après la nature des choses, j'explique. Et j'arrive à expliquer toutes les guerres. Ce qui se passe entre les Juifs et les Arabes, ça ne marche pas avec mes théories. J'arrive pas à me l'expliquer. Ça aurait pas dû finir comme ça. Je ne sais pas comment, d'après mes logiques et mes trucs, ça doit être autrement. Et j'arrive pas à comprendre, donc je ne parle pas. Je préfère ne pas parler parce que je ne sais pas les expliquer. Comment ça se fait que c'est sorti comme ça, les Juifs ont gagné? D'après les règles de la militaire, ça aurait pas dû être comme ça. Bon, ça c'est une petite... Donc, si on voudrait dire d'un certain côté, il y a plusieurs choses qui sont des signes qui, on dirait, qui ne laissent pas tromper qu'on a ici des prophéties de Kibbutz Galayot, de Binyan d'Eretz Israël, que ça donne des fruits, qu'il y a une sécurité phénoménale. Et il y a encore beaucoup plus, il n'y a pas que la construction de routes et des maisons. Il y a d'autres choses dans l'industrie et dans la science. Il y a des prix Nobel, il y a des start-up, des phénoménales. Je ne sais pas si vous recevez un peu les comparaisons de Nuit d'Orient. Je ne sais pas si vous avez un type, un Français qui envoie toujours Nuit d'Orient. Les choses qui se fabriquent en Eretz, ce qui se fabrique dans le monde, c'est phénoménal. Une petite terre, ils ont autant de chidushim que les Chinois, autant de chidushim que les Américains. Et quelques petits juifs. Bon, mais il y a un mais. On regarde, on ne voit pas tout. Le tableau, il n'est pas entier. Parce que la Torah parle bien que quoi? Que les Juifs vont revenir à la Torah. Et ils vont se soumettre à la Torah. À titre individuel, à titre d'État, et des bâtis d'inim, et des juges, qui dit juges, dit ministres, dit système étatique, qui sera soumis aux lois de la Torah. Or, les Juifs sont revenus en Eretz Israël. La situation religieuse, elle est des fois perturbante. C'est ça, Mashiach. Quoi, c'est ça que nous avons attendu 2000 ans. Des fois, ceux qui ont construit le pays, ceux qui ont construit les arbres, ou les militaires, ou les routes, ou les maisons, ou l'État, tous les systèmes, ou les rouages de l'État, ils n'étaient pas très... Bon, ils n'ont pas coupé tout avec les Yiddishkeit. Pas tout, ils n'ont pas tout coupé, tout. Ils avaient toujours le Tanakh et quelque chose en Dieu, mais la pratique religieuse, est pas forcément... Et certains éléments, ils étaient très, je dirais pas quoi. Et certains jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se mettre à... Et ça c'est Mashiach, mais c'est pas ça Mashiach. Ça perturbe beaucoup de gens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on reste avec un point d'interrogation. Il y a une chose, c'est que ça tourne par an. Si c'est Mashiach, il faut que les Juifs font la Torah. Sinon, alors c'est pas Mashiach. Alors si c'est pas Mashiach, comment ça se fait que 7 millions de Juifs, ils sont revenus et que ça construit? Ah, il y a une contradiction. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une contradiction? Teiku. Yanavi va nous répondre à cette question. Ou on essaye soi-même répondre. Peut-être, c'est doucement. Peut-être ça prendra du temps. Il y aura encore des changements. Peut-être c'est pas exactement comme on s'imaginait. Beaucoup de Juifs, ils se sont imaginés ce que retournèrent Israël, c'est des Juifs religieux. Et tout le monde retourne religieusement. Et ce qui n'est pas religieux, il restera en Nouvelle-Zélande. Il restera en Afrique du Sud ou je ne sais pas où. Ceux qui retournent, Mashiach, on retourne, ceux qui sont religieux. Oh, c'était pas comme ça. Les Juifs pas religieux qui veulent. Ah, qu'est-ce qu'ils ont avec Mashiach? Ils ont rien. Alors il prépare pas Mashiach. Ou peut-être il prépare lui. Mais il prépare pas ce qu'il pense préparer. Peut-être HaKadosh Baruch Hu, il utilise des gens qui sont pas religieux pour créer à la fin un état religieux. Et pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il fera comme ça? Et pourquoi il utiliserait des gens pas religieux? J'ai pas de réponse. Donc quoi? Donc ça ne peut pas sortir Mashiach de ça. Ou peut-être oui. Et alors pourquoi il utilise des gens pas religieux? Je sais pas. Je suis obligé de répondre à tout. Répondre à tout. On ne sait pas, t'as écouté. Peut-être un jour on saura. Oui, mais quand on ne sait pas expliquer, ça reste travers la gorge alors. Ou peut-être on peut lui expliquer. Peut-être il n'y avait pas assez de juifs religieux pour le faire. Parce que préparer cette histoire de Mashiach, c'est pas seulement que le peuple juif sera religieux. Il y a bien revenir sur la terre et construire. Et construire comment? Des châteaux d'Espagne? En carton? On va faire des maisons en carton? Non. Si on va avoir une terre, à quel niveau il veut que les juifs aient des vraies maisons? Et au standard du XXe siècle, et pas au standard du XIIe siècle. C'est pas du cavote que les juifs ils vont vivre dans des conditions qui sont pas dignes de. Alors, il faut des belles maisons, donc il faut des architectes, donc il faut des ingénieurs. Pour construire des bergers, il faut bien des scientifiques qui savent comment on arrose. Pour faire un militaire, il faut bien des gens qui ont appris. Pour faire des hôpitaux, il faut bien des médecins. Il faut un tas de gens. Seulement, toutes ces qualités, il fallait les apprendre. Et où on pouvait les apprendre? Dans les universités, dans les universités au XIXe siècle. À Moscou, il y avait beaucoup de juifs dans l'université. À Berlin, il y avait beaucoup de juifs à l'université. À Prague, et partout. Seulement, à Moscou, la première halakha pour être acceptée à l'université, il fallait devenir chrétien. C'est une halakha écrite dans l'université. Le juif, il doit renier sa religion. Shabbat. Bien sûr, il faut venir Shabbat et écrire Shabbat. Et comme ça, c'était dans presque toute l'Europe. Il fallait venir Shabbat. Il fallait être Machel Shabbat. Nous, qui va aller là-bas? Soit que ceux qui est déjà Machel Shabbat, soit il va devenir Machel Shabbat. Et comme ça, ça a été. C'est une tragédie. 18e, 19e siècle. Hein? Tu voulais devenir architecte? D'abord, c'était difficile pour les juifs. Beaucoup d'endroits, on ne laissait pas rentrer les justins comme ça. Et si on pouvait rentrer, il y avait des lois et une atmosphère et une ambiance qui était, pas que chez les juifs, dans le monde goy aussi, une ambiance qu'on abandonne la religion, abandonne la foi. Et les juifs, ils étaient dans des conditions. Mais ils ont appris des métiers. Eh ben, il y avait des docteurs, il y avait des professeurs, il y avait des spécialistes, il y a des gens qui étaient à l'armée anglaise, ils ont appris d'être officiers, il y en a qui ont appris à se défendre en Russie. Mais quand on est militaire, c'est pas les Bachor Ishiva qui restaient foum, qui restaient dans l'armée anglaise, et turque, et russe, et polonais, et allemand. Donc ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc quand ils sont venus en Eretz, si quelqu'un il n'est pas religieux, mais il sait être un officier, alors il va faire l'armée comme lui, etc. Qu'est-ce que maintenant on va se mettre, entre guillemets, on va se mettre à la place d'HaKadosh Baruch Hu? Si vous êtes HaKadosh Baruch Hu Kevayachol, vous allez faire quoi? Je veux que les Juifs retournent en Eretz Israël. Mais il faut avoir des maisons construites. Mais qui va construire une maison? Un architecte, un ingénieur qui a appris, sinon ça ne marche pas. Et si je ne trouve pas un religieux, je fais quoi? Il n'y a pas religieux qui veut le faire. Oui, mais pas religieux, ça ne marche pas avec Mashiach, ça ne colle pas. Alors si vous êtes à Kesboko, vous faites quoi? Vous faites quoi? Ah ben, on va descendre du ciel, les maisons vont tomber du ciel. Les malachim vont venir et vont construire le pays. Les malachim, ils vont venir construire le pays. Ou je vais obliger les juifs de faire la Torah. À quel moment je vais obliger les gens à faire la Torah? Il a créé une bechira. Les gens, ils peuvent choisir. Rendre les gens des robots que tu dois faire la Torah. Mais bon, on n'oblige pas. C'est à toi de choisir. Mais il peut faire des malachim qui descendent du ciel qui vont construire le pays. Des malachim. Motzei Shabbat, il y a un pizmon qu'on chante. On connaît. Le pauvre, après les navires venus, il a construit le château dans une nuit. Oui. Mais pour ça, pour que les navires viennent pour faire ton boulot, il faut des mérites. Il y a une Gemara dans Masechet Me'ila Daf Yud Zayin. La Gemara raconte un jour, l'empereur romain, il a fait des xérot contre les juifs. Interdit faire Shabbat, Brit Mila, c'est des choses classiques qu'on connaît. Non, les Chachamim d'Israël, ils ont dit, ils font une délégation qui part à Rome pour discuter, pour le raisonner, le roi. Qui va partir? Alors ils ont décidé, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, ils vont partir. Le fils de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il avait peur parce que Rabbi Shimon, des fois, il s'énervait quand quelqu'un ne se comportait pas bien. Il avait peur qu'il faisait une contre son fils. Et Rabbi Shimon dit, non, je ne m'énerverai pas, je te promets. Bon, à la fin, il s'est énervé, après, c'est sorti quand même bien. Bon. Alors ils sont partis. Ils sont partis. Non, il voyage vers Rome, il rencontre, je ne sais pas qui, je ne peux pas vous dire comment il s'appelait. Non, je peux dire, il s'appelait M. Bentamalion. M. Bentamalion, ils ont rencontré. Qui c'est ce M. Bentamalion? Je ne sais pas. Un chindal, un démon. Une folie, ça dirait des gens qui déraillent un peu. M. Bentamalion, il se présentait chez Rabbi Shimon. Il dit, Rabbi Shimon, tu dois aller à Rome? Il faut que tu aies changé la vie du roi. Tu veux que je te donne un coup de main? Je suis à ton service. Si tu m'as besoin, je suis là pour te servir. Alors Rabbi Shimon s'est mis à pleurer. Il dit, aïe, 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 aïe. Même la servante d'Abraham Avinu, Hagar, quand elle avait besoin, elle a trouvé 4 malachim qui lui ont donné un coup de main. Et nous, maintenant, on a besoin... On est du ciel, à Keshbok, on ne peut pas m'envoyer un malach. Il faut un shindal, c'est un démon qui nous donne un coup de main. Quand on ne mérite même pas un malach, je ne mérite pas, et Hagar méritait 4. Alors il s'est mis à pleurer pour la tragédie que lui et son copain Rabbi Yossi, les juifs de sa génération, ne méritent pas qu'Hachem leur envoie un malach. Après, il a arrêté à pleurer, il a dit, bon, Yavo Hanes Mikol Makom. Eh bien, Hachem veut nous aider. Il veut nous faire un miracle. Eh bien, que le délégué, il sera ce qu'Hachem il a choisi. Il a choisi un démon. Eh bien, ce sera le démon. Il a dit Bentamalion, c'est bon. C'est bon, tu me donnes un coup de main. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Bentamalion? Il est rentré dans le cerveau de la fille du roi. Elle est devenue folle. Elle a déraillé. Il a déraillé. C'est un petit virus, une petite bactérie qui fait dérailler. Un virus, vous allez trouver peut-être aujourd'hui dans les trucs, un virus qui rend fou les gens, qui s'appelle Tamalion. Il était déjà reconnu par Rabbi Shimon dans le dictionnaire des démons. Elle est devenue folle. Nous, ils amènent tous les médecins et tous les exorcisseurs et tous les chamans et compagnie. A rien à faire. Rabbi Shimon, il arrive dans le palais royal. Il dit, j'ai entendu que la fille du roi, elle a tapé une crise de folie. Je suis exorciseur. Ah bon? Bravo. Allez-y. Montrez vos capacités. Alors, on lui a amené la fille. Il dit dans l'oreille, ben, ta maillon dégage, c'est bon. Tu peux partir. Et le virus, il était chassé. Il est redevenu normal. Le roi, il dit, monsieur le rabbin, je suis épaté. Eh bien, je vais vous faire un cadeau. Vous méritez un cadeau. Dites-moi, quel est votre cadeau que vous voulez? Vous pouvez rentrer dans le trésor. Choisissez une chose, c'est à vous. Ils l'ont fait rentrer dans le trésor. Il y avait là-bas le papier, l'exérote contre les juifs. Il dit, je veux ça. Tchlik, tchlak. Il a déchiré. Vous allez arrêter d'embêter les juifs. Oh, il était d'accord. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Si HaKadosh Baruch Hu veut sauver une situation tragique, et des fois on a besoin de miracles, il peut envoyer un malach, mais des fois malheureusement on ne mérite pas le malach. Et si on ne mérite pas le malach, il prend pas forcément un malach, il prend un démon. Mais Yavor Hanes Mikol Makom, c'est tragique, c'est à pleurer. Mais Yavor Hanes Mikol Makom, quand HaKadosh Baruch Hu il veut réussir, il peut utiliser un serpent, Chazal disent. Il peut servir, il a tout, il a toutes sortes. Alors, évidemment, nous ne sommes pas obligés, à tout prix, de vouloir se forcer pour donner une explication sur ce qu'HaKadosh Baruch Hu il fait. Loin de nous de sentir l'obligation que je dois comprendre comment Hachem et pourquoi Hachem il fait les événements de cette façon. Nous ne sommes pas obligés. Mais, si quelqu'un y veut, tant que ce n'est pas tordu, il a le droit d'interpréter. Peut-être que HaKadosh Baruch Hu il a fait comme ça. Il a vu qu'il n'y a pas assez de juifs religieux qui sont capables de créer un État. Eh bien, ce qui veut, eh bien, qu'il vient. Seulement, il faut que ça finisse avec ce qui est marqué dans le prophète. Pour la finition, évidemment. Mais est-ce que pour le début, ça doit marcher ce qui est dans la tête des gens? Ou ça peut être autrement? Ça peut être autrement. On croyait que des juifs religieux vont construire l'État. On croyait comme ça. Qui nous a dit? Qui nous a dit que c'est comme ça? C'est marqué, les juifs vont revenir et vont faire teshuva, oui, mais au début, on ne voyait pas tellement la teshuva. Au début, on craignait plutôt que les juifs pas religieux, ils vont imposer un mode de vie dirigé par l'État, pas religieux. Aujourd'hui, on voit que c'est pas forcément vrai. Loin d'être vrai. Bli Ayin Hara, le nombre des juifs religieux, le nombre des juifs trois quarts religieux, elle dépasse de tout ce qui était imaginé. Comme Ben-Gurion, au début de l'État, il a dit, « Bon, je suis d'accord que les Bachorei Yeshiva, ils vont pas à l'armée. » Il disait, « Mais pour quelques centaines, ça me gêne pas. » Voilà le grand visionnaire. Il croyait qu'il s'agit de quelques centaines. Baruch Hashem. HaKadosh Baruch Hu, il a trompé. Il les a trompés. Il y a toute une... Est-ce que c'est marqué comme ça dans les prophètes, qui ont un micmac comme ça, compliqué, entre religieux et pas religieux? On raconte sur le rabbi de Satmar qui était très anti-État. Il était chez le Chazon Ish. Et il lui a dit, Chazon Ish, il disait aux juifs, en tout cas juifs religieux, venez en Eretz Israël, il disait sans problème. Et il a dit, mais monsieur, Rav, les juifs religieux sont une minorité. Quand une majorité n'est pas religieuse, vous connaissez bien la halakha, une minorité bat-elle vers la, dans la majorité, une minorité s'annule dans la majorité. Alors la Chazanish, il a dit, d'où savez-vous qu'une minorité qui marche avec Messirut Nefesh, elle est battelle dans une majorité. Une minorité qui est Moser Nefesh, qui vous dit que c'est battelle dans une majorité? Alors il a dit, alors comment vous allez faire que la majorité va devenir religieuse? Alors il a dit, quand c'est à l'obscurité, ça ne sert à rien de prendre un bâton et frapper obscurité, part d'ici. Elle ne partira pas. Ce qu'il faut faire, il faut allumer une bougie. Quand vous allumez une bougie, l'obscurité va partir tout seul. La bougie, ça veut dire quoi? On fait un cheder, on fait une école, on fait une yeshiva, on fait un kollel, on fait un Bet Yaakov, on fait un gan. Encore et encore et encore. Alors l'Arabie Satmarie dit, qui est-ce qui doit faire ça? Il dit, vous. Alors il a fait le premier cheder à Bnei Brak. Le premier cheder à Bnei Brak était fait à l'Arabie Satmarie. Vous devez le faire. Ça veut dire ça que le juif doit le faire. Chacun qui est capable de faire, ben, il l'a fait. On voit beaucoup de choses très intéressantes en Eretz. Beaucoup de choses. Des contradictions. Des juifs qui rassent shalom, ils perdent la tête là-bas. Et des juifs que ça leur pousse là-bas la tête. Et là-bas, ils retrouvent la Torah et Mitzvot. Il y a beaucoup de Baal et Tshuva. Il y a 60 ans, pour trouver un Baal Tshuva, il fallait courir derrière cette montagne, cette fleuve, pour le dénicher. Aujourd'hui, on les ramasse à l'appel Baruch Hashem. Des gens loin, loin, ils viennent dans des yeshivot, ils viennent des cours de Torah, ils écoutent. Il y en a d'autres choses aussi, il y a un mélange, un micmac. Est-ce que ça, c'est prévu dans les prophètes? Peut-être. Peut-être. Ce tahalikh de Teshuvah, le Teshuvah des Kadosh Baruch Hu, on n'impose pas la religion. Le peuple va s'imposer lui-même. Comment? Eh bien, plus et plus il y a des juifs religieux, plus les juifs ils vont changer. Il y en a qui ne sont pas contents. Si quelqu'un il va dire, est-ce qu'aujourd'hui les tribunaux, ou la police, ou les ministres, ils font partie de ce qu'on dit dans le Sidour, Hashiva Shafteno Kovorishona Vayatseno Kevatechila? Est-ce qu'aujourd'hui nos conseillers et nos juges sont des justes tzadikim? Hashiva va sauver nous comme autrefois. Mieux vaut de pas avoir affaire avec leurs juges et leurs avocats et leurs lois. Mieux vaut de pas avoir affaire. Mais ça n'empêche pas que la Torah avance. Sans s'arrêter, elle avance. Il peut y avoir chez les juifs religieux aussi des tensions, oui. Les tensions sont déjà marquées dans la paracha de cette semaine aussi. On dit que Yaakov Avinu voulait se marier avec Rachel. Et après, Lavan, il a donné Léa. Alors il a pris Léa, Rachel. Ça, c'est un Yann Amok. Qu'est-ce que c'est Rachel? Qu'est-ce que c'est Léa? Les enfants de Rachel, les enfants de Léa. C'est de Rim Amukim. Quelle est la différence? Il y a des différences entre les enfants. Et ces différences dans la paracha, on nous parle de Rachel était jalouse de Léa. Et Léa qui se noie. Vaya Rachem qui se noie Léa. Léa se sentit détestée. Il y avait un peu de haine et de jalousie, il y avait micmac. Et après, chez les enfants aussi, Yosef et les frères aussi, Vaekanuoto, après c'était le contraire. Ici, Rachel était jalouse de Léa. Après, les enfants, les autres enfants étaient jaloux de Yosef. On la mettait dans le trou. Chose très bizarre. En fin de compte, Rachamim, il raconte que pour Mashiach, il vient. On parle toujours Mashiach, il vient, hein? Mashiach, il vient. Mais dans la Gemara, on voit, il semble qu'il y a deux Mashiachim. Il y a Mashiach ben Yosef qui vient de Yosef. Il y a Mashiach ben David. Le dernier roi qui s'impose, c'est Mashiach ben David. Mais il semble de Chazal qu'il y en a quelqu'un qui prépare. On l'appelle Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire, Yosef, David qui... C'est par hasard ou est-ce qu'il y a un calcul? Alors on dit au nom des grandes de Vilna que ce n'est pas Astam comme ça, par hasard. C'est des grands calculs du ciel, Mashiach ben Yosef, étant donné que la royauté de Mashiach, elle est double. Elle est Gashmi, elle est Rouhani. Les Juifs vont habiter en Eretz Israël. Il y aura une bracha Gashmit. Les Juifs, ils vont réussir Gashmi d'une façon terrible. Et Beruchaniot, dans la Kedusha, dans la Torah, c'est une double délivrance. Et chaque délivrance a besoin de passer une étape. Maintenant, cette étape, ces étapes, ils sont tous Al-Beder et Hanes, tous par miracle, ou ça s'inscrit dans un mouvement d'un Esme Lubash Bateva. On dit au nom de Goldeville, il dit que c'est Beloubash Beder Echateva. Il écrit ça il y a 200 ans, que les débuts de la préparation de Mashiach sera que les Juifs retournent en Eretz Israël avec la permission de Goïm, comme c'était à l'époque d'Ezra Sofer. Ils vont demander le Goïm la permission de retourner, ils donneront la permission, Alala, il va venir. C'est Dinissim qui va être Beloubash Beder Echateva. Que ceux qui veulent voir, ils peuvent voir la main d'Hachem. Ceux qui ne veulent pas voir, ils ne verront pas de Kriyat Yam Souf. Il y a une Gemara qui parle sur Ezra Sofer. Quand ils ont revenu après le Choban du premier Beit Mikdash, ils étaient 42 000. Ezra Sofer, il a demandé au roi de Perse, est-ce que vous permettez qu'on retourne à Jérusalem? Est-ce que vous permettez de construire un Beit Mikdash? Et Dariavesh était très généreux. Vous avez le droit de retourner. Ce juif qui veut retourner, qu'il retourne. Et je vous permets à vous, Ezra, d'instaurer un état religieux. Et vous allez être le juge. Vous avez le droit de construire des tribunaux. Et tout le monde doit vous écouter. Et vous faites le Beit Mikdash. Et vous priez pour moi aussi. Et je vous donne de l'argent pour que vous priez. Faites des corbanotes pour moi. C'était très généreux. C'était les Perses. Dariavesh était le fils d'Esther. Bon, c'est encore une autre histoire. En tout cas, c'était Meloumash Beder Echateva. Et la Gemara nous dit sur ça, quand dans la Shira, on chante Ad Yavor Hashem, Ad Yavor Amcha Hashem, Ad Yavor Amzukanita. Que les goïms, ils vont se tenir au carreau jusqu'ils vont passer ton peuple Dieu. Jusqu'ils vont passer ce peuple que tu as choisi. On parle de deux passages du peuple juif vers Israël. Et Azni Valou Aloufé Edom, Ele Moav Yorze Morad, Namogu Kulosh Vechanan, Tipol Elem Emata Vafachet Bigdol Zerachayid Mokana, Adiavaram Hashem, Adiavaram Zukonita. Les peuples vont trembler, ils vont rester la bouche bée, ils vont fondre de peur. Comme ça, ça a été à l'époque de Moshe Rabbeinu de Yeshua Binon. Benoun, il a arrêté le soleil, la lune, et les pierres sont tombées sur les... Puis les plaotes, ils tremblaient devant les Juifs. Adi Avraham Hashem. Mais quand ils ont monté pour la deuxième fois, ils ne tremblaient pas les goyim. Il a dit, vous avez le droit. C'était plutôt les Juifs qui tremblaient un peu. La Gemara nous demande, et pourtant, mon cher Benoun, il a dit, que les goyim vont trembler deux fois. Pour la première Bia et la deuxième Bia, pour la première fois que les Juifs viennent en Eretz Israël, et pour la deuxième fois, la Gemara nous raconte, t'as raison. En vérité, ça aurait dû être la deuxième fois comme la première fois. Quand Ezra Israël, il est monté, ça aurait dû être que tout le monde tremble. Et à un moment, il tremblait, qui, Rabbi Me'amar et Smithia Adim, qui n'a pas le pachet Ayoudim Alehem, l'année 66 de l'exil, il y avait un choc qui est passé. De Mordechai, l'histoire de Purim, va Rabbi Ameharetz Mityadim, qui n'a pas le pachat Mordechai, une fois n'a pas le pachat Yudim, le peuple pachat Yudim, alehem, Et sur le ministre, c'est marqué Pachat Mordechai, il y a un moment. Mais le reste des goyim, ça restait pas longtemps, ce Pachat. Alors pourquoi il n'y avait pas un Pachat comme à l'époque de Moshe Rabbeinu? Raouyim hayu Israël, le Asat lehemnes que Moshe Rabbeinu, et là, Shegara Machet. Les Juifs, ils ne méritaient pas. À l'époque d'Ezra, ils ne méritaient pas. Il y avait des péchés. Après, la quiche, le péché, c'est que pas tous les Juifs voulaient monter. Rabbi Yochanan dit, c'est pas ça le péché. Il y avait d'autres péchés. Il y avait des Juifs qui étaient mariés de Goyot. Il y avait des Juifs Ameratzim. Bon, on n'avait pas le mérite. Comme on n'avait pas le mérite, on est monté, mais sans le grand Trararam comme il y avait à l'époque de Moshe. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu Kiviyachol, si on peut dire ainsi, il adapte sa façon de gérer les affaires du monde avec plusieurs paramètres. Un des paramètres, c'est le mérite du peuple juif. Si à l'époque d'Ezra, les juifs, ils avaient eu le mérite qu'ils avaient à l'époque de Moshe, Akadosh Baruch Hu, il aurait fait trembler le Proche-Orient, comme il l'a fait à l'époque du Shoah. Si les juifs, ils ne méritaient pas, les juifs, ils n'ont pas tellement. N'ont pas tellement tremblé. Mais ils sont quand même montés, les Juifs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités pour un Gem de gérer les affaires. En tout cas, comme il dit la grande ville, n'a que la Goula, Mashiach va venir, il y en a deux parties. Il faut le Tzura Gashmit. La Gashmit peut être avec des Nissim et Niflot, peut être Meloubash Bederech HaTeva. Mais il faut qu'il y ait une réussite Gashmi. Il faut que le pays sera beau. Il faut que le pays sera moderne. Il faut qu'il y ait de l'eau qui coule, pas qu'on cherche de l'eau comme Shérif Kawa au puits. Il faut que les Juifs y vivent avec un standard. C'est kavod du Klal Israël de vivre avec un standard. C'est kavod que le pays sera beau. C'est marqué dans la Gemara, Eretz Israël doit être belle. La beauté, plein de choses. Begashmi, il va être défendu correctement. Ça, c'est, la grande ville a dit que ça, c'est le travail de Mashiach ben Yosef et des individus qui jouent une particule de Mashiach ben Yosef. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais comme ça, il a dit. Il y a Mashiach David. Maintenant, comment ça rentre dans Léa, Rachel? Ça, c'est une étude à part. Yaakov Avinu, il voulait Rachel. Parce qu'elle était belle. La beauté, c'est ce qui est visible pour tout le monde. Ça, c'est la partie Gashmi. Ça, c'est Yosef. Il voulait Yosef, mais Lavan, il a fait un magouille. Léa, Léa, c'est caché. La beauté est cachée. Ça, c'est la partie Rouhani. David et Melech, il vient de Yehuda. Yehuda vient de Léa. Ça, c'est Mashiach ben David. C'est la partie Rouhani. Donc, il y a chez les enfants de Yaakov. Ceux qui préparent la partie Gashmi, ceux qui préparent Rouhani. Et des fois, il y a un Kina, il y a un Sina, il y a un malentendu. Et des fois, Rachel, elle est jaloux de Léa. Et des fois, les enfants de Léa sont jaloux de Yosef. Et ça peut être entre des juifs religieux ou pas religieux. Ça peut être entre des juifs pas religieux. Ça peut être entre des juifs religieux. Toutes sortes de Kina, de Sina, de embrouilles qu'on ne se comprend pas. On n'a pas compris que l'autre aussi a sa place. Jusqu'à la fin, les choses se sont dévoilées, se sont mises en place comme il faut. Comme on dit, les chemins du Seigneur sont impénétrables. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire de l'avenir de Mashiach. On dit que Yehuda, il était sur la route et Tamar, elle s'est déguisée. Elle est tombée enceinte de Yehuda et tout ça, il sort Mashiach. Quelle histoire tordue! Yehuda ne pouvait pas se marier avec Tamar normalement. Une histoire tordue. Pourquoi? Il y a des explications. Il y a des fois des choses qui doivent être tordues pour que ça réussisse. Des fois, il y a des choses tordues, qui doivent commencer tordues. À Kadesh Baruch Hu, il a son projet. Il y a des choses qui sont droites, il y a des choses qui sont tordues. Nous devons chercher les choses droites. Mais à Kadesh Baruch Hu, on peut faire les choses tordues aussi. Que l'on marche votaï, marche votéchem, velo darachem, darachai, noum hachem. Sauf pasouk. Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer? Qui s'est interprété? Qu'est-ce qu'on sait? On dit, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un rabbi, il s'appelait Rav Weissmandl. Il a sauvé beaucoup de juifs pendant la guerre, c'était un juif très spécial. Ma mère le connaissait encore avant la guerre, elle a entendu des drachot de lui. C'était un tamit racham, un gaon, tzadik. Et pendant la guerre, il était à Bratislava, il a sauvé des juifs. C'est toute une histoire. Et après la guerre, il disait, il ne faut pas penser à Mashiach. Pendant les prochains 40 ans, Mashiach ne viendra pas. Allez-y construire. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont dit, ça y est, on ne peut plus, on ne peut plus. Mashiach doit venir, sinon je craque. Il a dit, oubliez Mashiach, allez-y construire. Construisez des maisons et des familles. Il faut... Mashiach ne viendra pas maintenant. Parce que l'idée de Mashiach peut devenir une idée qui aide à la paresse, à ce shalom. Non, Mashiach, lui va faire le règle. Pour le moment, je m'endette et Mashiach va payer mes dettes. Ça marche pas comme ça. On raconte sur l'Arabie des Belles. Comme ça, on raconte. Je ne peux pas vous jurer que l'histoire elle est vraie, mais comme ça, on raconte. Après la guerre, l'Arabie des Belles était à Tel Aviv. L'Arabie Klausenburg, il était aussi en Eretz. Alors, un jour, un chassid vient chez l'Arabie de Klausenburg. Je viens d'entendre l'Arabie des Belles, il a dit qu'il ne veut pas que Mashiach vienne maintenant. L'Arabie de Klausenburg dit, quoi? Quand lui aussi, il a perdu la tête. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut que je vois. Demande-lui, prendre un rendez-vous, je veux lui parler. D'accord, un rendez-vous qui vient. Alors, il vient chez l'Arabie des Belles, il dit, c'est vrai que vous avez dit que vous ne voulez pas que Mashiach vienne maintenant? Il dit, oui. Il dit, comment ça se fait? Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne à quelques vieux juifs taper Meshuga, casser en pièces? Mashiach, il va venir, c'est kavod pour lui. Il n'y a rien. Laisse une génération, deux générations, qu'on va faire des bate knessiot, et des yeshivot, et des écoles, ils vont apprendre la Torah. Et il y aura beaucoup de juifs religieux. Et après, à kavod, que Mashiach vient maintenant, c'est qui va aller, où il va aller? Où il va arriver, c'est pas Mkidaï maintenant, c'est pas dans son honneur. Laisse un peu plus tard. Bon, il avait raison, il n'est pas venu. Il y a déjà 250 ans, il y avait Machlok et Tchela Admourim, comment Mashiach va venir. Il y avait l'Arabie des Côtes, parce qu'il y avait un peu différentes, ils étaient réunis. Ah, il a dit que Mashiach vient déjà, coûte que coûte. L'autre dit c'est quoi coûte que coûte? Il dit, même s'il faut marcher jusqu'aux genoux dans le sang des Juifs, eh bien, que ce sera déjà et qu'il vient déjà. Alors, il dit, ah non, 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 non. Mashiach, il doit venir sans qu'une goutte juif tombe par terre. Qui avait raison. Les deux, on était déjà jusqu'aux genoux dans le sang et il n'est pas encore venu. Ça, c'est dans le sang des Juifs, on était, Mashiach n'est pas encore venu. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du kibbutz galuyot, il y a une construction, il y a des merveilles, évidemment. Évidemment, tous ces merveilles, c'est des cadeaux qu'Hachem il fait. On aurait pu peut-être faire mieux que ça. Il y avait un rave, il a dit, un grand rave connu. Il est rentré dans un magasin de vendre des produits cachers. Alors il y avait 50 sortes de bonbons. 50 sortes de bonbons. Des bonbons comme ça, et comme ça, et comme ça. Un goût secret. Avec Hercherim. Il dit, aïe, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à Kadejoch, il donne un tel chef à des sucres. Du sucre cachère, des bonbons cachères. Tout ce goût, on aurait pu avoir dans la Rouhanio, dès c'est rentré dans les bonbons. C'est dommage. Il donne un chefa, il fait des nissim et des flottes. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une telle aide. Bon, c'est un peu dommage que ça rentre dans des bonbons, ça pourrait rentrer dans... Mais ça rentre dans beaucoup de choses aussi, dans beaucoup de choses plus que les bonbons, bon, au Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme résumé? Mieux vaut pas dire un résumé. Comme ça, on n'est pas responsable. Mais Vada, il y a des, désigne un nom qui annonce, qui annonce qui n'était jamais. Jamais c'était comme ça. Le kibbutz galiot, la construction de terre, que la terre reçoit les juifs. Kakadosh il fait que des centaines de millions, ils n'arrivent pas. Ils arrivent toujours et nuit, ils n'arrivent pas. C'est marqué dans Natan Hashem, il va sauver, il va aider aux juifs. Ce sont des signes. Et même la Chazara Bitshuva, il y a, Baruch Hashem, des choses merveilleuses, merveilleuses, merveilleuses. Maintenant, c'est pas encore, il n'y a pas encore tout ce qui est marqué. Alors, est-ce qu'il va venir et ils vont s'arranger avant, après, ou est-ce qu'il va attendre que les choses s'arrangent? On va savoir, j'en sais rien, moi. Ça, je ne sais pas. Maintenant, l'effervescence politique. Est-ce que c'est l'effervescence politique? Qu'est-ce qu'il y a comme événement majeur politique, à part que notre président, il a donné sa démission pour le prochain quinquennat? Qu'est-ce qu'il y a comme événement? Qu'est-ce qu'il y a comme événement majeur? Bon, ce qu'il y a... Non, notre président, on en l'Élysée. Alors, il est pas, il n'a pas lu le journal cette semaine, ça va. Pas grave. Mais, oui. Est-ce que quoi? Est-ce qu'il manque? Mais après que vous avez dit qu'est-ce qu'il manque, vous avez ajouté, je n'ai pas entendu, parce qu'à cause du bruit.
Qu'est-ce qui manque maintenant pour ma chère Riquel? Parce que déjà, vous avez dit qu'on avait la terre, on avait les fruits, on avait les fruits, on avait les chouvas, on a...
Est-ce qu'ils vont être en fait après que Mashiach vient ou avant que Mashiach vient, je ne sais pas. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire jusqu'à qu'on arrive à un monde qui sera décrit comme le prophète il décrit. Chaque juif, il doit encore faire son travail et continuer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Quoi? Des signes, vous n'êtes pas obligé de chercher des signes, vous êtes obligé de faire votre travail. Chaque juif, il a son avoda à faire. D'ailleurs, indépendamment de Mashiach. Mais indépendamment de Mashiach, nos grands-parents qui ont vécu au XIIIe siècle, ils ont fait leur avoda, ils n'ont pas vu Mashiach. Et alors, nous devons faire notre travail. Il y a beaucoup de travail à faire, vous. Je ne sais pas, vous avez des enfants amenés au cheder. Vous devez gagner la parnassa, votre croûte, pour vivre. Vous devez être gentil avec vos voisines. Chacun, il a son avoda. Il n'y a pas forcément, je dois faire ça pour Mashiach. On ne travaille pas pour Mashiach. Nous, on travaille pour Hachem. On doit travailler pour Hachem. On ne doit pas travailler pour Mashiach. Mashiach, c'est un cadeau qu'Hachem il fait à la fin. Un cadeau ou une récompense. Nous devons faire notre travail. Il y a encore beaucoup de travail à faire, chacun. Pourquoi vous sentez que vous avez tout, tous vos voisines, tous les juifs, ils ont déjà tout. Il faut encore travailler. Mais c'est possible qu'Hachem il va amener Mashiach avant qu'on ait fait tout le travail, ça... On va savoir. Oui.
Je ne sais pas s'il y a quand même une date butoir.
La date butoir qu'il faut quitter ici les lieux, j'imagine c'est à minuit. Docteur Aziza, il ne va pas. La date butoir de Mashiach, moi, je ne connais pas. Il y en a qui disent 6000 ans. Alors, l'année 6000, comme ça, il y en a un Mahamar de la Gemara. Nous sommes l'année 5700. 76. Donc d'après 77. 5777. D'après la Gemara qui dit que Mashiach viendra avant l'année 6000, donc vous avez encore 200. Mais c'est quand même sera étonnant que ça durera encore 200 ans. C'est... On dit les de l'emprise de Ishmael. Bon, ça c'est. Pourquoi pile Ishmael? Pourquoi pile Ishmael? Tous les Omotolam, c'est marqué Gog ou Magog, c'est tous les Omotolam, Ishmael. C'est une. Ishmael, c'est une petite partie de toute la structure anti-juif. Ben, ils vont s'écrouler quand même, ils vont tirer le chapeau devant les juifs à la fin. À la fin, ils vont venir, comme dit le Rambam, on se trompait, on nous a trompés. Rambam dit, les Ishmaélim, ils vont venir chez les juifs, ils vont dire, bon, on se trompait. Nos parents, ils nous ont roulés dans la farine. Bah, et comme ça, ça sera avec eux, comme avec les autres. De quelle façon? Parce que la question, elle est, quand est-il de l'emprise d'Ishmaël? Mais cette emprise, l'emprise d'Ishmaël, une emprise, c'est une emprise sur quelqu'un d'autre. Mais avant qu'il y ait une emprise sur quelqu'un d'autre, il y a d'abord une emprise sur soi-même. Leur culture, et leur religion, et leur fierté d'appartenir à une ethnie, à une religion, à la Oumma Ismaélite, cette fierté, elle est toujours là où elle a reçu un coup. Je voudrais savoir. Il faut qu'un psy leur parle. Dites-moi la vérité. Je m'en doute, je ne sais pas. La vérité, moi, je n'ai jamais parlé avec ces gens-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Mais ça aurait été quand même intéressant de faire un sondage jusqu'à où ils sont encore fiers de leur culture et religion. Oui?
J'avais parlé de la prophétie de Kibbutz Galuyot. À son moment de l'exilé, j'aurais voulu savoir si dans cette prophétie, il y aura d'abord tout le kibbutz galouyot, ça veut dire tout le peuple juif rassemblé en Eretz Israël, et ensuite il y aura le dévoilement du Mashiach, auquel cas ça veut dire on doit y penser que tous les juifs vont finir par monter en Eretz Israël, ou alors quand il y aura le dévoilement du Mashiach, il y aura encore un autre kibbutz galouyot où tous les juifs vont monter en Eretz Israël.
Vous avez un chumash ici? Pour répondre, je me permets d'utiliser une prophétie dans Yeshaya. Voilà, il apporte. Entre Tisha B'Av, à partir de Tisha B'Av, Shabbat après Tisha B'Av, il y a chez les Juifs sept haftarot du prophète Yeshaya, qu'on appelle Shiva de Nechemta. Les sept prophéties qui parlent de la consolation. Alors, je vais vous lire ici deux versets. Alors, Koh amar Hashem, Hine essa el goyim yadi, je vais lever la main vers les nations, velamim amirim nisi, Dieu dit, je vais lever mon drapeau vers les nations, והביאו בנייך בחוצן ובנתייך על כתף, על כתף תינסנה. Les goyim, ils vont prendre les garçons et les filles juifs, ils vont les mettre sur les épaules et vont les apporter en Eretz Israël. והיו מלאכים אומנייך, et les rois, ils vont être ceux qui vont te élever. ושרותם, leur ministre, מנקותייך, ils vont te donner à boire, ça veut dire madame. Ah, elle n'a pas de madame, le pauvre. Madame Fillon, je ne sais pas quoi. Elle dira, j'aurais bien voulu donner à boire à un enfant juif d'une crèche juive. Eretz ishtachavulach. Ils vont se prosterner par terre devant toi, Juif. Ils vont lécher la terre qui est à tes pieds. Et ils vont porter les Juifs pour les amener en Eretz Israël. Il semble du prophète, je ne sais pas, il semble du prophète que le tapis rouge pour l'Air France ou pour... une fois que Mashiach il est là, ils vont se donner un honneur d'amener les Juifs en Eretz Israël. Parce que ce pasouk ne parle pas d'Exodus. À l'époque de l'Exodus, ils ne se sont pas prosternés à nos pieds et n'ont pas porté les filles sur les épaules. Cette prophétie n'a pas été encore mise kayem. Et Hachem, il va lever et les goyim ils vont apporter. Ce sera un honneur pour eux de nous apporter. Donc, à première lecture, mais je ne suis pas... Je dis à première lecture, il semble que quand Mashiach vient, il y aura encore des juifs chutz la'aretz et ils vont venir après. Ceci dit, c'est possible de venir plus tôt, mais... Peut-être à Kadesh Baruch Hu, il a un plus qu'on vient plus tôt. Ça, c'est... Mais c'est marqué que les goyim voudront empêcher les juifs de monter en Eretz. C'est marqué dans les prophètes que les goyim voudront détruire, mais ils ne réussiront pas. Ils vont essayer de lever et ça leur tombe dessus. Ça fait chaque jour ils veulent enlever et se cassent les pieds. Alors, des fois, ils peuvent brûler un forêt, oui. Pourquoi Kadesh Baruch Hu n'a pas protégé? Si Akadosh Baruch Hu il aurait voulu faire un shgacha pratit, il aurait voulu les empêcher. Si Akadosh Baruch Hu veut les empêcher de nous faire le moindre mal, il peut. Mais des fois, il ferme un peu les yeux. Des fois, il y a un peu Esther Panim. Si on a assez de mérite, Akadosh Baruch Hu ne laisse aucun goy de cracher sur un juif. Et s'il y a des juifs un peu qui s'oublient un peu Hachem, Akadosh Baruch Hu peut dire, comme il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, plus qu'un homme il est attaché à Hachem, plus Hachem lui fait un shgacha pratit. Et il le protège de tous les ennemis. Et quand le tzaddik il s'endort un peu, alors Akadosh Baruch Hu peut dire, je m'endors aussi un peu, et claque, il peut arriver. La Rambam dit qu'Abraham et Yaakov, du temps en temps, ils ont reçu des claques. Pourquoi? Parce que du temps en temps, ils ont pensé un petit peu à côté d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit la Rambam. Quand Yaakov, il manque un peu de avoda, plaf, il a eu de tzahar gedul banim. Quand Abraham Avinu, il a dit Bamaïda ki Rachena, plaf, il a eu 400 années d'exil pour les Juifs. Quand les avots, ils ont enlevé un peu le Dvekut, il a moins protégé. Il est arrivé un accident. Quand un accident il arrive, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fermé les yeux parce qu'on n'avait pas assez de Zchouyot pour nous protéger. Mais ah, si, ça aussi, c'est. Mais beaucoup d'initiés. Maintenant, pourquoi exactement? Peut-être c'est, j'en sais rien, il y a Gemara Moed Katan qui parle des différentes Amoraïm. Quand ce Tanaï Niftar ou c'est Amora et Niftar, tout de suite après il y avait des catastrophes naturelles, comme ça dit la Gemara, sur beaucoup de Tanaïm Amoraïm. Quand un grand Chacham, ça dit qu'il protège, il part, il faut que les gens... Akadosh Baruch Hu fait un signe et il arrive une catastrophe naturelle. La grêle ou un tremblement de terre, différentes choses là qu'on raconte. Peut-être il y a un grand chacham qui est niftar, qui a des jours qui voulait faire un signe, c'est possible. J'en sais rien, je n'étais pas au ciel. Bon, ciao à tous.